Un marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
All right, c'est parti. Bon lundi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101 en espérant que vous ayez passé un super de beau week-end actuellement sur Québec. C'est pas chaud pour la pompe à l'eau. Qui pisse au vent, récolte le mauvais temps? Non? Moins un. C'est moins un comme température ressentie. Au moins, c'est du soleil pour aujourd'hui, maximum de plus 4 degrés avec le refroidissement éolien. C'est un genre de moins 12 ce matin. Pour ce qui est de demain mardi, généralement ensoleillé avec un maximum de plus 5. Mercredi, c'est des averses, maximum de 14. Jeudi, nuageux, maximum de 17. Et vendredi, des averses, maximum de 16. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin sur la route, les amis? Des carambolages un peu partout, juste à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Si vous étiez en Beauce ou encore dans le secteur de Lévis ou encore dans le secteur, je sais pas, vous arriviez de Montréal, vous arrivez à Québec. Carambolages partout. C'était-tu le soleil? C'était-tu le fait qu'il faisait fret? Je sais pas. Me pose la question. 418-971-1021 si vous avez la réponse à cette question-là. C'est le jeu de la chaise musicale dans l'open mic. Audrey qui a pris une semaine de vacances de plus. Fait qu'elle va être là lundi prochain. Elodie qui a dit « J'en ai assez de Marceau chaque mon camp ». Et ça donnait bien puisque j'avais le retour de ma collègue, mon exceptionnel collègue du midi, Pascal Cévé, qui était faire un tour en Europe. Elle m'avait quitté pour un Italien. Finalement, ça n'a pas fait. T'es revenu.
Salut!
Salut!
Hey, comment vas-tu?
Ça va bien. Tous mes bagages étaient prêts. Écoute, okay. Tout mon kit, là, commando pour aller sauver Pascal Cévé qui se fait enlever
commando étant... Plus soldat ou plus soldat de la nuit dans ton commando?
Les deux!
Super! Les je pense qu'on n'a pas eu besoin.
Les deux mélangés. Mais là, la cagoule, tout ça, là, j'étais prêt à aller te chercher pour te ramener ici aux auditeurs de Boulevard. T'es parti pendant 2 semaines, t'es allé faire le tour de l'Europe. Tu sembles avoir vécu un voyage exceptionnel.
Aucun rapport.
Seul. Ouais.
Ouais. Majoritairement. C'était...
Toutes les nuits, seul.
Majoritairement. C'est la nuit, je veux dire, tu peux aller dans un endroit où tu soupes au restaurant.
T'as dormi seul puis... toutes les nuits.
Je pense que j'ai besoin d'un avocat, là. Y a-t-il quelqu'un qui est disponible?
Comment ça se passe quand t'en rencontres un qui parle italien? Parce que l'espagnol,
c'est vraiment
tu peux
le fun,
sortir.
J'ai tellement de choses à te raconter. Puis ce que tu fais.
L'espagnol, tu peux t'en sortir.
Oui, je m'en sors bien, je connais bien.
L'italien, alors. Ça finit tout par des O et des A.
Là, moi, c'est très mangiamo, là. Mais après, tu manges ce que tu veux, là. C'est juste que choix du chef. Moi, je vois pas où tu veux aller, par contre. C'est un mot très important parce que la cuisine italienne, c'est la seule chose qui est très intéressante quand tu visites le pays. C'est vraiment le point. Je suis tellement tannée, puis ça fait une minute. Il faut savoir que Yann et moi, on s'est un peu parlé pendant mon voyage, mais avant d'entrer en onde, on n'a eu aucune minute. On n'a eu aucune minute. On vient de s'asseoir avec vous autres, puis c'est notre premier contact depuis le voyage.
On ne s'est pas contacté, non.
On ne s'est pas donné tant de nouvelles, là, c'est ça. Fait que toi, tu peux imaginer ce que tu veux de ce voyage-là.
Ouais.
Mais visiter l'Europe au complet, je te dirais que c'est large de dire ça.
Ben là, oui, là.
Parce que c'est large, en pas à
immense.
Peu près. Mais je suis vraiment contente du choix que j'ai fait par rapport à où je logeais. C'était central aux frontières de plusieurs pays. À le refaire, je ferais exactement la même chose. Je me suis loué une voiture, j'étais dans un petit Airbnb qui me coûtait à rien.
C'était à rien, ça veut dire quoi, là?
À rien, là. Je veux dire, moins de 40 $ par nuit.
OK!
Tu comprends? Puis c'était pas le grand luxe.
On est loin des crasseurs, ça, t'as 200$, là?
Ouais, mais je pense que le petit monsieur, je sais pas trop si c'était... je sais pas comment il gérait ses affaires, mais je suis pas sûre que c'était tant su, tu comprends?
C'est ça. Il y avait plein de caméras partout, mais des caméras cachées.
Je pense que j'ai payé d'une autre manière. Ça, je veux pas le savoir. Puis si un jour vous avez des détails là-dessus, donnez-les moi pas.
On me dit que tu vas vraiment retourner en congé, mais en congé de maladie, c'est une question de temps.
Arc, ça m'écœure donc bien. C'est mal me connaître.
Oui, franchement.
Mais non, c'était vraiment. Je trouve que mon voyage m'a pas coûté cher. C'est tout ce qui était cher, puis j'ai pris la peine de le faire pour toi parce que c'est des affaires qui t'intéressent. Là. La seule dépense que j'ai trouvée chère dans ce voyage-là, malgré la conversion de l'euro puis tout, arrête de rire. C'est pas mon corps que j'ai donné, puis c'était cher puis tout. OK, on va clairer ça. C'est le gaz, c'est l'essence.
C'est 3$, c'est vrai?
Écoute, 1,76 euros, donc pas dollars canadiens.
Avec 2,25
par litre. Tanker la petite voiture européenne que j'avais, là, 62 euros, c'est 93 canadiens pour 35 litres. C'est 2,90 canadiens pour un litre.
Ouais. Et mettons 3$, c'est ça.
Et c'était là que c'était cher. Mais mettons tout ce qui est nourriture, là, moi, j'étais un petit peu dans...
l'abus, là. Très honnêtement, j'aurais pu amener à souper avec moi bien du monde quand je partais dans les restos parce que, si tu le sais, c'est mon fun dans la vie. C'est ce que j'aime faire. Fait que je me payais des grosses batches de bouffe puis j'en ramenais un peu puis c'était comme mon dîner le lendemain ou quoi que ce soit. Mais des assiettes pour 50$, mettons, un repas, là, j'en avais 4 à 5 sur ma table puis j'avais du vin là-dedans, un verre de vin. Très bon verre de vin à 1 euro, 1,50 euro, okay. Je les ai payés.
Parce qu'on m'avait dit qu'en Espagne, ça coûtait absolument rien, la nourriture puis le vin. Là. Mais ouais. Tu me confirmes qu'en Italie, c'est à peu près la même chose.
Italie, moi, je trouve que ça m'a rien coûté, mais je faisais un prorata, un ratio avec le Québec, là, où des fois, j'en ai mangé, ça m'a coûté 120$, puis j'ai eu 3 verres de vin, puis une assiette et demie avec une entrée. Là.
Ouais.
Puis là, tu fais, voyons donc, puis là, ça me coûtait 50 Canadiens. Puis je t'avais commandé 4 à 5 assiettes parce que je l'ai goûté à plein de choses, puis j'avais bu du vin en masse à pouvoir conduire ou des fois pas. Là. T'sais, c'est rien, comprends-tu? En Italie, en Slovénie...
Mais tu conduisais pas, c'est ça?
Puis en Autriche, non, je conduisais
voilà,
pas.
Okay.
J'ai énormément marché. J'ai couru. C'était un voyage que j'ai fait majoritairement pour boucler l'année que j'ai passée. Là. Puis me lancer ce défi-là de le faire en solo. J'ai passé la majorité du temps seul. Puis ça a fait un grand bien. J'ai soupé seule, j'ai tellement à un moment donné que ça intriguait les gens. Première soirée en Italie, là, hey, les Italiens comprenaient rien. Là. Pourquoi t'as une jeune femme de 30 ans qui est grimée, qui est assise dans un resto à une table seule? Le nombre de questions que je me faisais poser.
Tu t'es relevé les yeux après 15 minutes, il y en avait 10 assis à côté.
Non, mais... Mais écoute, ce premier soir-là où je suis arrivée deux fesses au resto avec la table à me commander mon petit martini, il y avait un couple de l'Angleterre à côté qui était dans une 60aine d'années. Puis déjà, ils me regardaient en se demandant qu'est-ce qui se passait. T'sais, c'était qui elle? Pourquoi elle est là? Elle comprend pas trop l'italien. Puis là, ils m'ont jasé un peu. Eux autres, ils étaient en voyage d'amoureux. Puis... Tu viens qu'à parler avec des gens pareils, même si t'es seul, ça attire l'attention, ça
plus
attire
une
le
fille,
regard.
Je te dirais.
Probablement.
Ouais. Plus une fille, je te dirais. Est-ce que les cellulaires sont une plaie là-bas aussi?
Moi, j'ai découvert des trucs des dernières années en voyage, puis c'est les eSIM. C'est les cartes SIM.
Non, mais je veux dire, dans le sens où quand tu vas dans les restos, là, tu t'attables.
C'est drôle, c'est une note que je me suis prise. C'était vraiment intéressant, puis on s'est pas parlé, là. Il y en a beaucoup moins en Europe.
Ouais.
Même en Slovénie, je me sentais mal de prendre mon sel. Mais tu sais, à un moment donné, t'es toute seule. Là. T'as bien... Moi, je lisais, j'apportais mes livres, je prenais le temps de réfléchir, d'écrire, puis tout ça. J'aime beaucoup écrire, mais des fois, t'étais sur ton sel. Puis je regardais autour, personne ne l'était. En Slovénie, je te dis, il n'y a personne sur son sel. Tu te sens mal. Tu te sens mal de marcher avec ton sel pour regarder ton GPS sur où tu te rends. En Italie, c'est très convivial. C'est du bon temps avec les gens que t'aimes. Tu vois automatiquement c'est qui les touristes. Qui sont sur leur cellulaire.
Par leur cellulaire.
Ouais.
Mais tu vois, vendredi, tu vas me dire que c'est un petit peu moins exotique que ton voyage, mais j'ai été à Sainte-Foy, à l'Archibald. Puis ça m'a marqué. J'étais assis autour du bar, puis j'étais avec ma blonde. Puis j'ai regardé les autres. Puis c'est sûr que la clientèle autour du bar, ou Archibald, à Sainte-Foy, du moins, le vendredi, c'est une clientèle qui tourne autour du 40 à 65 ans.
Okay.
Fait que c'est une clientèle plus vieille. N'avait pas un qui était sur son cellulaire. Les gens étaient là pour se jaser. Ça m'a... C'est tellement rare que ça arrive que ça m'a marqué.
Puis au bar, est-ce que c'était des gens seuls ou c'était des gens en doublé?
C'est drôle, il y avait des gangs de gars, des gangs de filles. Ça me faisait penser à l'ancienne clientèle du Beaugarde.
Mais l'Archibald, là, Yannick, c'est tellement ça. Même à Lac-Beauport, c'est vraiment du monde. Je pense que c'est un genre de Tinder sans le dire.
Ah, peut-être.
L'Archibald, il y a quelque chose là avec les bandes. Là. Moi, je me rappelle quand mes parents se sont séparés. Puis là, je ne veux pas brûler ma mère, mais tu sais, tout dans l'Archibald. Là. C'était des gangs de chums de filles là, qui écoutaient du Marie-Chantal Toupin, là, qui venaient de se divorcer. Une gang d'hommes qui écoutaient je sais pas quoi, qui venaient de se divorcer, puis qui allaient à l'Archibald triper puis rencontrer du monde.
Ouais, tu vois, j'ai croisé 3 flics à retraite du service de police de la Ville de Québec qui étaient là. Puis ils sont. Je vais au Archibald peut-être une fois par mois.
Okay.
Puis à chaque fois que j'y vais, ils sont là. Ils sont à côté au bord.
C'est leur place.
Eux autres sont
c'est
au
beau,
bord.
Ça,
puis après ça, le band commence. Puis ils s'en vont. J'imagine qu'ils s'en vont danser avec les madames seules. Là, je sais
pas. Les gens qui se sont séparés. Là,
ouais, mais ils sont encore jeunes. Ils sont à 55. Là.
Et oui, ils ont toute la vie devant eux.
Je sais pas s'ils sont séparés, eux autres. Là.
Ils ont normalement.
Pour leur femme, mais.
Mais tu sais, ça, hein. Mais ça, Yannick, mettons en Italie, là,
oui.
À 30 ans, là, toute seule en voyage. Sans me sentir jugée.
T'as-tu failli pas revenir?
Sans me sentir. Dans quelles circonstances? Pas revenir pour quelle raison?
Je sais pas.
Précise ta question.
Ricardo qui arrive avec un beau grand sourire.
Non, en Italie. En Italie, non.
Non.
Mais...
Où? Slovénie?
Mais en Italie, j'ai... ce que j'ai refermé immédiatement, ouvert mon Hinge.
En Italie, non, mais en Italie...
J'ai ouvert mon Hinge pour voir...
Ça, c'est un truc de rencontre.
Une application de rencontre que je n'utilise pas, mais que j'aime utiliser en niaisant, soit je suis en voyage...
Oui, hey, on est de même.
Et
ouais.
Fabio, Enrico, Alessandro, Mario, Dopplade, Sebastiano, Matteo, Giulio, Ste, Michele, Alessandro, un autre, okay. Davide... Ça...
Finalement, t'as eu un bon voyage?
Mais non, mais je leur ai tous pas répondu! J'ai supprimé, moi.
Ah, ouais.
J'en venais au Québec, puis j'ai supprimé. Mais je voulais juste voir c'était quoi l'étendue de l'Italie.
Puis, montre-moi donc, moi, voir de quoi ça a l'air, ces gars-là.
Non, parce que tu vas...
Non, mais anyway, tu reverras jamais, là.
Non, mais je veux pas.
Non, non, mais montre-moi juste leur face. Okay, je te promets que je toucherai à rien.
Okay. Je vais te montrer...
Montre-moi ça.
C'est un Jacopo, là.
Là, t'es vraiment en train d'en effacer devant moi, là.
Non, non, mais tu sais, gars, ça, là.
Ah, mais je le vois pas d'ici.
Non, tu le vois.
Hey, je suis vieux, moi.
Il se prend pas pour un sac de sel à truffes, là.
OK, il se pogne les cheveux par en arrière.
Non, non, mais c'est très charmeur. Je te dis, ce souper-là.
C'est très charmeur, mais il serait peut-être mieux que quelqu'un.
Je t'arrête, je suis revenu.
Qui est coiffeur comme lui, attends.
Les hommes italiens prennent soin d'eux. Ça, toi.
Peut-être.
Peut-être que t'aurais envie de rire,
tu
mais...
Tu tout avec des sacoches.
Mais il y a quelque chose dans le charme européen, là.
Oui.
Mais j'ai résisté. Je me trouve très bonne. Ce soir-là, il y a...
Tu n'as pas rencontré un?
J'ai pas rencontré un Italien, là. Je te le garantis. Même le premier soir, j'aurais
pu... C'est quoi
pu...
les autres pays, t'as fait?
C'était un serveur, OK, puis à la fin, il me pose la question, puis il me dit... Hey, toi, t'es-tu seule? T'es pas avec tes amis? T'es pas si c'est ça? Puis il m'a servi toute la soirée, là.
Ouais.
Je dis non, je suis ça. Hein, comment ça se peut? Papa. Là, reste de même.
Ça sent le gars qui va t'enlever un rein, là.
Je trouvais un peu, mais tu sais, il avait l'air d'avoir 25 ans, il avait de l'acné partout. Je me dis, tu sais, il a enlevé un rein. Faut que t'aies plus de confiance. Puis
Dieu sait que les gens qui font de l'acné, ils enlèvent pas de rein à personne.
C'est juste que c'était pas au summum de sa confiance à ce moment-là, je pense. Fait qu'il peut pas être confiant d'enlever un rein. C'est très ingrat, là, le début de l'âge adulte.
Et les auditeurs veulent savoir. T'as fait l'Italie?
J'ai fait l'Italie, la Slovénie, l'Autriche.
Okay.
Je voulais me rendre en Croatie, mais il est arrivé de quoi dans ma vie? Fait que je me suis jamais rendue parce qu'il y avait d'autres plans qui se sont mis sur ma route.
Un Autrichien ou un Slovénien?
À Vaux-Paris. À Vaux-Paris, mais...
Pensais pas t'étais de même.
À Vaux-Paris, mais j'aurais pu avoir une liste de futurs pères pour mes enfants. C'est juste que...
Il t'a même pas épousé, non? Rien?
Non. Mais penses-tu que j'aurais voulu, Yannick? Penses-tu?
Ouais, c'est
penses-tu?
Ça. Les auditeurs sont très contents que tu sois revenu, soit dit en passant.
Je suis tellement touchée.
Ils sont contents d'entendre ta voix. Il y a un Rachid qui t'écrit.
Rachid?
C'est
un nouvel auditeur, ça?
Il dit diesel coûte plus cher que l'essence en Europe.
Incroyable. Mais j'avais pas de diesel, moi. Je t'inquiète à l'essence normale.
Oh, hey, yes! Ça, bon retour, difficile. Pascal CV. Je suis très heureuse d'entendre à nouveau ta jolie voix et ton énergie contagieuse.
Hey,
bon
j'en
retour.
J'en ai. Moi, il est tard, là. Il est pas 10h14, là.
Christian dit « Je mise sur Pavel en Slovénie. »
Pavel?
Oui.
Pourquoi Pavel? C'est un nom slovain?
Non, mais il s'appelait comment?
Je comprenais rien, moi, en slovain, Yannick, là.
Comment ça fonctionne, ça? Vous êtes avec un Google Translate dans le bar?
Ben, je suis pas vraiment sortie d'un bar, là, okay. Sache-le. En Slovénie, il y en a beaucoup qui parlent en anglais. Tu sais, c'est l'ex-Yougoslavie. Puis dans les relations autour des pays où ils sont, tu sais, sont enclavés, ils ont eu à jaser, puis ils ont eu à trouver l'anglais comme point de repère. Puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anglais, mais cassé comme le mien. Fait que là, des fois, t'arrives, tu te comprends pas trop. C'est pour ça que j'ai tout compris mes conversations, très honnêtement. Je fais des farces, Mais même les Italiens, c'est plus tough.
De toute façon, le langage de l'amour, ça demande pas grand mot.
Mais ça te prend une bonne langue. Fait que peu importe, là.
Ça tourne-tu à droite ou à gauche?
Ah, ça, c'est pour les gens qui voudront l'essayer, ils iront, hein. Mais l'Italie, c'est très tough, se débrouiller si tu parles pas italien.
Il y a quelqu'un qui s'essaye avec un Marianne en Slovénie?
Non.
Non.
Non, c'était pas ça.
Quelqu'un qui dit un peu de sérieux dans cette émission, enfin.
À date, vous n'êtes pas servi.
Nick, qui veut savoir, est-ce que les Slovéniens sont de bons amants? Pas pourquoi il me demande ça à moi.
Ben, tu y répondras, là. Je t'interpelle. Je veux savoir.
Je t'ai dit.
Magnifique pays. Si je vous avais ajouté ça sur votre to-do list, mais vous avez hésité ou vous avez jamais pensé, là, c'est de toute beauté. Je suis restée plus longtemps, puis c'est pas parce qu'il y avait d'autres raisons que les paysages, les choses à découvrir, puis tout ça.
Puis là, tu as voyagé tout seul. Qu'est-ce que tu as découvert que tu n'avais jamais découvert quand tu voyages avec les autres?
J'ai découvert à quel point c'est plus facile que je pensais de voyager seul.
Moi, c'est les premières heures quand tu arrives sur place que je trouve un peu difficile.
Moi, ça a été plus tard.
De trouver mes repères.
Ça a été plus tard parce que je considère que je suis une personne débrouillarde, très honnêtement. Quand je comprends pas, je vais essayer de comprendre. Puis si je comprends vraiment pas, je vais pas m'en faire avec ça. J'ai pas beaucoup de stress. Moi, ça me stresse pas dans la vie.
Valérie demande si c'est Sebastiano.
Non, ça serait plus italien.
Ou Bastiane.
Bastiane, c'est original. Mais non. Mais... Tu vas-tu me couper à chaque 5 secondes?
Nicolas dit, c'était pas pour toi, Marceau, à savoir si les Slovéniens étaient de bons amants, c'était pour Pascal CV.
Non, il a pas dit ça.
Oui, oui, il vient de le réécrire.
Ben, je vais te répondre par texto, Nicolas.
OK.
Mais...
Adamo?
Non, c'est beau ça, par exemple.
Giovanni.
Giovanni, ben là, ils disent tous des noms italiens. Mais tu sais, ça se peut que ça soit une autre nationalité que j'ai rencontrée en Slovénie.
Un Chinois?
Ça se pourrait.
Ça se pourrait.
Ça se pourrait. Mais... ta question, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert qu'il y a vraiment quelque chose de plus à voyager seul. Je l'avais jamais fait. J'ai voyagé beaucoup. Mais le faire seul, je te dirais que pour une femme, c'est pas toujours évident. En Slovénie, je me suis sentie en sécurité majoritairement. Il y a un soir que là, j'ai fait une technique de femme qui doit s'en aller d'une manière subtile. J'étais dans
chaque partie d'employé, tu le fais? Anyway.
C'est ça, c'est plus dangereux au Québec, des fois! Dans un bar au Québec, t'es plus en danger que tout seul dans le monde.
Hey, je vais aller me chercher une bière, je reviens.
Elle ne reviendra
jamais.
J'étais dans un genre de bar qui était proche d'une gare. Puis ça, il faut toujours faire plus attention en voyage parce que t'as toutes sortes de personnes qui sont là. J'étais assise, puis à un moment, il y a trois gars qui arrivent. Je comprends rien, c'est en slovène, puis ils parlent fort, puis ils regardent, puis ils regardent, puis ils regardent. Puis tu sais pas pourquoi ils regardent. Ils ont un genre de look à inquiéter ta mère. Fait que là, je me suis dit... ouais, là, passe, comment tu vas te faire pour partir de façon subtile sans qu'ils se rendent compte que... Fait que j'avais un verre de vin, j'avais mon livre, j'étais allée au bar où il y avait les filles, j'ai demandé l'addition. Puis ça, c'est un bon truc, mesdames, en passant, là.
Ouais.
Tu demandes l'addition, mais t'as pas fini ton verre. Puis là, tu restes là, là. Après que t'aies payé, c'est juste que tu vas avoir un moment où tu vas pouvoir partir quand tu veux et tu ne finis pas ta coupe de vin pour pas donner la scale sur « OK, elle s'en va bientôt » ou quoi que ce soit. Là, tu te mets ton manteau comme si t'avais froid un peu, puis à un moment donné, tu pars de façon subite, là. Fait qu'il y a personne qui était prêt à ton départ à ce moment-là.
Okay.
Ça, je l'ai utilisé une fois. Je te dirais, Yannick, que je souhaite à tout le monde de le faire au moins une fois.
Ah oui, vraiment.
De voyager tout seul, d'aller dans un endroit où tu comprends rien, ça aide énormément. Il y a des petites choses qui sont arrivées, du genre les œufs de douane italienne. J'étais plus capable. Moi, j'ai été pointée, c'est sûr, je sais pas trop, mais on m'avait dit, permis international... pas tant besoin, c'est juste une traduction. Ça coûte 30$ chez CA Québec, ton permis international. Si tu t'en vas, puis il faut que tu conduis à l'international, là, va te le chercher. Niaise pas avec ça, parce que ben, il y a eu un attentat il y a un an en Italie, puis ils ont resserré les douanes terrestres. Là. Mais les douanes terrestres, Yannick, c'est comme si moi, je me monte un chapiteau dans le stationnement ici, puis je t'arrête une fois de temps en temps. Quand il pleut, je suis pas là. S'il fait trop froid, je t'arrête pas. Puis si je suis dans la vingtaine, je suis sur mon sel. Fait que, tu sais, je t'aurais pas vu faire ton stop, puis je vais te laisser aller. Mais quand, mettons, c'est Sebastiano, 53 ans, qui, lui, s'est fait dire par son boss aux douanes, là. Tu screens tout le monde, puis tu demandes les permis internationaux, tu te fais pogner. Fait que moi, le monsieur, il parle pas anglais. J'essayais d'y expliquer que j'ai passé maintes et maintes fois, mais là, je passe plus journée, là, je passe plus, ils veulent plus. Ils veulent plus, ils veulent plus, ils veulent fouiller tous mes bagages. Ils ont tout ouvert au grand vent. Ils sont allés dans chacune des pochettes, puis après ça, refait tes bagages. Il y a pas, tu sais, pas d'aide, pas...
As-tu remis tes strings dans l'ordre de couleur? Ben?
Non, il m'en manque toujours un. Je sais pas. Mais puis là, il comprenait rien. Fait qu'il prenait Google Traduction, puis il parlait à son sel.
Ouais.
Fait que là, ça traduisait en anglais. Puis je voyais le jeune homme à côté qui était juste comme, mon Dieu, si ça avait été moi, je l'aurais laissé passer. Okay. Mais lui, il a dit, il m'a vraiment mis sur son, sur son téléphone, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais parlé, tourne de bord, sinon ça va coûter 280 €.
Fait que dans le fond, il était à bout, fait qu'il a abandonné.
C'est un attrape-touriste, là.
Ben non, il a juste fait comme moi quand je travaillais avec toi.
Là. Deux jours plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai passé.
Tout était beau.
Tout était beau. Pas de problème, pas besoin de permis international. Mais allez le chercher.
Ouais.
Puis j'ai vécu des affaires qui quand tu voyages seul, je pense, t'arrives parce que tu viens qu'à rencontrer des gens, tu jases un peu, puis tu te ramasses dans des histoires pas possibles, du genre être dans une brigade gastronomique.
Hey, on s'en reparlera dans un festival. Vers un tour de 11h, c'est à quelle heure notre émission?
On fait ça dans Marceau de midi?
11h30, ouais. 11h30, on en parlera un petit peu.
Je te garde ça.
D'accord.
Mais tu vas faire comme, c'est sûr que ça t'arrive.
T'es bien gentil. OK, hey, actuellement, sur... ouais, le climat, c'est comment là-bas?
Je te dis qu'ici, tu fais frette en ce moment.
Ça fait zéro, là.
J'ai vécu un 25 le plus haut, puis j'ai vécu le plus bas, je pense, c'était un 15.
OK. Puis le plus haut, c'était?
25. Mais on est à l'automne.
Fait qu'entre 15 et 25,
moi,
c'est parfait.
J'ai vécu les couleurs. Comme dirait Audrey Pinchot, j'ai vécu les couleurs en Europe.
Ouais. Okidou. OK, fait que aujourd'hui c'est ensoleillé, c'est ce qu'on nous mentionne, maximum de plus 4, c'est le maximum. Demain, mardi, généralement ensoleillé, excusez-moi, je suis en train de faire un refresh de ma page, maximum de plus 5 pour demain. Mercredi, c'est des averses, maximum de 14 degrés. Jeudi, ce sera nuageux, maximum de 17. Et vendredi, ce sera des averses avec un maximum de 16 degrés. Juste te dire, dans le parc, c'était une tempête de neige.
Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y avait un vortex quand je suis revenu à Montréal, extrêmement beau d'un bord. Vortex de neige épouvantable.
Même affaire. Je ne sais pas à quel, dans quel temps vous êtes passé, mettons, à Québec. Là. Mais moi, j'ai fait deux fois aller-retour Val-Bélair-Beauce. Mm-hmm. Des fois, j'étais en Beauce, il neigeait. Après ça, je sortais de l'aréna, il faisait super beau. Je montais à Val-Bélair, il neigeait. Après ça, je remontais en Beauce, il faisait beau.
Avoue qu'on voyait vraiment la colonne. Hein?
Il neigeait à Québec, oh, oui. C'était bizarre, mais il y a eu de la neige. Là. Il y en a qui ont eu peut-être 1 ou 2 pouces de neige. Là.
Pouces?
Oui. Hey. Puis il neigeait dans le parc. Là. Je ne sais pas si ça a occasionné des problématiques. Soit dit en passant, en fin de semaine, c'était catastrophique. Là. Puis on a frôlé la catastrophe, surtout dimanche. Finalement, ça a bien été. On en reparlera avec Denis dans le pit stop.
Okay.
Mais si demain, il y avait eu une catastrophe sur le pont Pierre-Laporte, là, le détour était par Montréal.
Ah, oh, le pont La Violette.
Le pont La Violette était fermé. Ils l'ont fermé d'urgence parce qu'il y a des travaux à faire. C'est jamais bon signe, ça, quand on ferme un pont d'urgence pour faire des travaux. Puis le pont de Québec, ils ont décidé de continuer à faire des travaux en fin de semaine. Fait que,
met du poids sur ce qu'on dit.
Puis les autorités craignaient le pire pour dimanche, du moins à Québec, parce qu'à Montréal, ça en sent un peu.
En plus, le monde était tous nerveux, pneus d'hiver ou pas. Moi, je suis arrivé, j'avais plus mon char. Je le cherchais. Je m'ai appelé ma famille. Mon père était parti avec parce qu'il y a eu la première neige. Fait que là, faut bien pas que sa petite fille, quand elle revienne, n'a pas ses pneus d'hiver. Merci, papa, je t'aime. Mais, tu sais, c'était ça aussi pour des gens qui n'avaient pas leurs pneus, qui étaient nerveux, ça fait où passer.
C'est ça. Mais hier, on l'a, tu sais, ça a bien été. Dimanche, ça a bien été sur le pont La Porte. Samedi, ça a été une catastrophe. C'était 2 heures.
Hein?
2 heures, Beauce, Val-Bélair. Je capotais.
C'est le fun de dimanche. Et que c'est paisible.
Je capotais. Mais là, à un moment donné, il va falloir que la ministre du Transport lève un flag. Là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas fermer le pont La Violette puis le pont de Québec en même temps.
Mais en même temps, s'ils n'ont pas le choix.
Mais c'est un imprévu pour La Violette.
Salutations
aux gens de Trois-Rivières dans ce secteur-là. Et vous autres aussi, vous allez devoir mettre de la pression sur vos politiciens.
Faut raccrocher, mais je veux mettre un petit sujet de côté aussi.
Non, toi, raccroche.
Pourquoi est-ce que tu as un beau chandail aujourd'hui, puis tu t'es mis beau, c'était pour
moi? C'est parce que, non, j'ai fait une émission, ils m'ont demandé, à moi, personnellement, de faire la journée spéciale des vœux de Noël.
OK. À toi, personnellement.
Fait que je vais faire ça avec la dame de Leclerc Communication, Sylvie Goulet.
Oui.
Puis on fait une émission spéciale.
OK. Fait que là, tu t'es mis beau pour ça. C'est pas pour moi.
Je me suis habillé propre pour elle.
Mais ces nouveaux chandails-là, j'avais jamais vu ça. Diesel, qu'est-ce qui se passe avec notre Yannick?
Ben, c'était en vente
chez... Oh, t'avais hâte que je revienne.
Comment s'appelle la boutique là-bas, là?
C'était mis beau pour moi.
Qui donne pratiquement le linge, là.
Dino. Animalerie Dino.
Là. Village des Valeurs.
Animalerie Dino.
C'est ça.
C'est habillé.
17 pièces.
Dans un endroit pour sale cabot.
Village des Valeurs.
OK, raccroche.
C'est ça. Je raccroche. Oh, non, toi, raccroche. Clément Jacques, gagnez ma course au boulevard. On vient. 10h33, tout un sujet qu'on va aborder dans les prochaines secondes. Puis ça a commencé il y a à peu près 3 semaines. J'avais fait entendre une capsule que j'avais prise sur TikTok où un gars disait « Ben, savez-vous quoi? Moi, j'étais avec ma conjointe. On savait qu'on voulait un enfant. Puis on a rencontré une de nos amies qui, elle, cherchait un gars pour avoir un enfant sans être en couple avec. Puis on lui a tout simplement demandé de se joindre à nous pour élever notre enfant. »
Donc là, 3 personnes, tu veux
trois
dire?
Personnes.
3 personnes. Mais est-ce qu'ils étaient en couple, les 3 ensemble?
Non.
Ou c'était juste un partnership, un partenariat
c'est
familial?
Un partenariat familial.
Okay.
Lui est en couple avec sa blonde.
Ouais.
Puis la personne se cherchait quelqu'un pour
avoir
élever
un enfant.
Avoir un enfant. Puis ils se sont entendus les trois pour être les trois parents de cet enfant-là. Et lui,
parce qu'elle était seule, l'autre personne. Puis, qui a été enceinte?
C'est sa conjointe, de ce que je comprends.
OK. Les parents biologiques étaient le couple en question.
Exact.
Il y avait une femme de plus qui se greffait au partenariat familial.
Qui devenait la deuxième mère ou la co-maman. Je ne sais pas trop comment ils appellent ça.
Okay.
C'est un nouveau vocabulaire qui se développe avec le temps, là. Puis j'ai tout le temps besoin de gens plus informés que moi sur ce sujet-là pour m'éduquer sur la situation. Mais ça, j'avais eu comme un petit moment de jugement, là, t'as peu, là. Tu veux-tu vraiment des enfants pour les bonnes raisons? Ou...
Oui.
Parce que lui, il disait, « Hey, savez-vous quoi? Moi, avant 18 ans, là, t'es responsable de cet enfant-là, puis je voulais pas mettre ma vie complète de côté pour un enfant. » Puis je trouvais ça un peu troublant. Moi,
mais c'est parce qu'on n'est pas habitué à
exact.
Ça, puis on a toujours... Mais en même temps, Yannick, il y a une conception qui dit... Il faut un village pour élever un enfant. Y a-tu vraiment une manière de le faire?
Ben, oui, exact. Puis il y a plein de questions à se poser. Puis j'ai hâte, tu sais. Puis peut-être dans les prochaines semaines, on trouvera un psychologue qui nous parlera de ça, qui aura étudié la situation. Mais qu'est-ce que ça peut donner, tu sais, un enfant qui est élevé par trois, quatre personnes?
Y a-tu un impact positif, négatif? Y a-tu des impacts différents?
Qu'il y a deux papas, qu'il y a deux mamans. Tu sais, moi, je suis issu d'une famille monoparentale. J'ai dû avoir des modèles masculins très jeunes autour de moi pour m'aider. As-tu vu ce que ça a donné?
Oui, un échec total. Ou un besoin de masculinité beaucoup trop intense dans ta propre vie.
Peut-être. Mais bref, il y a un documentaire qui va sortir sur Ici Télé et sur Ici Tout TV. Ça va être présenté le samedi 2 novembre à 22h30. Et on parle des nouveaux modèles familiaux. Et on parlait de solo-parentalité, de couple homosexuel, de gens qui intègrent aussi un tiers géniteur. On va même suivre une dame qui refuse, qui refuse totalement d'avoir des enfants. Puis elle fait une démarche vers la stérilisation. Donc, plusieurs modèles qui vont être présentés. Le documentaire s'appelle « Choix de famille ». On a le plaisir de recevoir la réalisatrice qui s'appelle Océane Roux. Océane, merci d'être avec nous.
Bien, merci à vous de me recevoir.
Est-ce que c'est du vocabulaire que tu connaissais depuis des années ou c'est du nouveau vocabulaire que toi aussi tu dois apprendre avec le temps au fur et à mesure des histoires que tu nous racontes?
Ça a été du nouveau vocabulaire pour moi. Moi, étant dans un couple hétéronormatif, j'ai un modèle peut-être plus classique. Mais c'est ça, à force de faire le projet puis de faire des recherches par rapport à ces nouveaux modèles de famille-là, j'ai intégré tous ces termes-là à mon vocabulaire là, au travers du documentaire.
Puis est-ce que t'avais-tu des préjugés envers ces nouveaux types de famille-là?
C'était ma question aussi. C'était d'où ça part, là, tout ça?
Ça partait plus d'un sentiment de curiosité. Moi, je suis dans une période de ma vie où je me demande si je veux des enfants ou pas. Donc, je me suis dit, je vais faire un documentaire sur la famille. Je vais me mettre dans cet univers-là à 100%.
Ouais.
Puis, juste pour me confronter un petit peu à ces idées-là. Donc, c'est vraiment plus venu d'une curiosité. J'avais pas nécessairement de jugement par rapport à ça. J'étais plus curieuse de savoir comment ça se développe dans la réalité de mener ces projets-là qui sont peut-être plus, je dis des guillemets, là, mais atypiques.
Ouais.
Il y a quand même quelque chose que tu affirmes en onde avec nous, dire que tu hésites à avoir un enfant. Moi, je me souviens d'une de mes amies. Moi, j'ai 30 ans, juste pour placer les choses. Mon amie a le même âge que moi. Il y a 6 ans ou 7 ans, elle dit, moi, j'en veux pas être en couple déjà depuis 8 ans avec son chum. Puis elle dit, nous, on n'en veut pas. Puis on se rappelle là, de notre réaction, c'est comme, hein, ben voyons donc. Puis c'était tabou le dire, ça fait juste 6 ans. Là, toi, t'arrives, tu jases avec nous, tu parles de ça. C'est de plus en plus dans les discours. Est-ce justement une adaptation à cette peut-être ambiguïté-là, avoir des enfants, cette nouvelle façon d'être en coparentalité un peu explosive?
Oui, tu sais, je pense que par rapport à être sans enfant par choix, je pense qu'il y a quand même beaucoup de tabous qui sont reliés à ça parce que il y a une image de la femme qui est beaucoup axée sur la procréation, vu que c'est possible en tant que femme de mettre un enfant au monde. Donc, je pense que pour une femme de dire catégoriquement qu'elle ne veut pas d'enfant, surtout dans un jeune âge, ça peut être confrontant en tant que société parce qu'on est on n'est pas habitué à ça. On est plus habitué à avoir un parcours peut-être plus classique où la femme va avoir un enfant, va porter ce rêve-là de famille. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, mais peut-être que aussi affirmé, c'est plus nouveau. Dans le cas d'Eliane, là, que je présente dans mon documentaire, elle va jusqu'à demander la ligature des trompes. Depuis l'âge de 18 ans, c'est quelque chose qu'elle veut. Donc, et là, elle en a maintenant 29. Donc, oui, je pense qu'il y a quand même encore des tabous reliés à ça. Puis ça peut être confrontant d'être face à quelqu'un qui est aussi catégoriquement ne veut pas d'enfant.
Ouais, mais en même temps, c'est leur vie à eux. T'sais. Qui on est, nous, pour décider de ce que devrait être leur vie à eux si cette dame-là ne veut plus d'enfants depuis son 18e anniversaire? T'sais, là, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'il y a encore des médecins qui disent non, moi, je ne te ligaturerai pas les trompes, tu es encore trop jeune. Alors qu'elle, à 18 ans, c'était son choix, elle était déterminée, puis après plusieurs années encore, elle se bat pour se faire stériliser.
Sauf que si je suis honnête, j'ai quand même une arrière-pensée dans ma tête. Parce que, puis je ne sais pas si je l'aime, cette arrière-pensée-là, mais je suis vraiment juste transparente avec vous en ce moment. Je comprends que niveau relation sexuelle et autres, tu n'as pas de doute. Puis ben, en tout cas, tu ne penses pas tomber enceinte, puis ça libère beaucoup de choses. Puis un homme peut le faire, une femme peut le faire, puis tout ça. Mais il y a un impact et sans retour pour la femme, là, une fois que c'est fait, ça. Puis je me suis tellement rendue dans des situations où j'ai vu des gens autour de moi dire « j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas », puis trouver le partenaire de vie ou la partenaire de vie qui fait changer les choses,
ouais.
Puis qui donne une envie. Puis je vous parlais de mon ami en début d'entrevue, ben il pense là, maintenant.
Ouais, ça se vaut comme t'sais, opinion, c'est juste que moi, dans ma tête, c'est mon corps, mon choix.
Tellement,
là,
mais je suis tellement... Imagine, moi,
je suis
d'accord avec ça.
Un médecin qui respire fort, tu vois ses poils de nez, puis qui
smile
dit,
de ce qu'il regarde pas,
voici là. Ce que tu devrais faire, ben t'as peu. C'est comme les anciens curés des années 60 qui disaient à madame, non, vous avez eu 10 enfants, mais vous êtes encore capable d'en avoir deux autres, madame.
Tellement d'accord, puis moi, c'est plus un sentiment de genre de bienveillance, de ça me regarde pas, mais un genre de...
D'un coup que. Sauf que c'est pas nos vies.
C'est
à nous.
Pas ma vie, c'est pas de mes affaires, mais je suis transparente.
Océane, tu as commencé par tes recherches. Comment tu as trouvé ces gens-là? Bon, tu as trouvé des gens qui y vont un peu plus par la solo parentalité, tu as trouvé des couples homosexuels qui intègrent des tiers géniteurs. Ces gens-là, y a-t-il une association de ces gens-là qui existe? C'est comme ça que tu as réussi à les approcher?
Non, il n'y a pas d'association. Par contre, c'est une bonne idée. Je pense qu'il y en a qui aimeraient ça. Moi, j'ai trouvé la majorité de ces gens-là via des groupes Facebook. C'est vraiment sur cette plateforme-là que les gens vont se regrouper pour échanger d'informations, poser des questions. Je pense que c'est pas un secret là, qu'il existe des groupes Facebook pour à peu près tout maintenant.
Ouais.
Donc, c'est vraiment par ce moyen-là que j'ai rentré en contact avec la majorité des intervenants du documentaire. Puis c'est ça, pour eux-mêmes, là, ce rapport-là avec les groupes Facebook, c'est super important parce que ça permet d'avoir une communauté de gens qui comprennent leur réalité puis qui vont les accompagner aussi là-dedans. Fait que c'est à travers ces groupes-là que j'ai pu rencontrer tout ce beau monde.
Est-ce que tu as été confronté dans tes idées, je sais pas moi, la solo-parentalité, est-ce que ça t'a confronté, les couples homosexuels? Moi, je me rappelle ce qui m'a confronté dans les dernières années, Océane, c'est quand on a commencé à dire « Ah, mais il faudrait peut-être enlever le mot papa-maman ». Tu sais, moi, c'est le plus beau mot que je peux entendre de mes enfants, Océane, c'est quand mes gars m'appellent papa, OK? Quand il chiale puis il m'appelle papa, là, je suis plus capable d'entendre ce mot-là. Mais c'est quand même le plus beau mot que je peux entendre. Puis j'avais été confronté en disant non, ça, vous me l'enlèverez jamais. T'sais. Moi, quand je remplis des formulaires, t'sais, je veux pas parent 1, parent 2, je veux père, mère. Donc, tu sais, faut que j'évolue moi aussi, mais cette petite portion-là, papa, maman, moi, je ne l'enlèverai pas. Ces familles-là, eux autres, ils passent par là aussi, tu sais. Et s'il y a deux papas, ben, il n'y a pas de maman. S'il y a deux mamans, ben, il n'y a pas de papa. Si c'est une solo parentalité, ben, il n'y a pas soit un ou soit l'autre. T'as-tu été confronté là-dessus? Oui.
Ben, je te dirais que moi, je n'étais pas particulièrement confrontée à ça parce que j'étais vraiment dans une posture d'ouverture par rapport à ces différents projets-là,
ouais.
Vu que j'étais là par curiosité. C'est ça, je dirais que je pense que pour ces gens-là, ils ont un peu le même discours que toi, en fait. Ils vont se dire, nous, on est deux pères, puis on voudrait être connus les deux comme papa. Puis parfois, dans les formulaires, tout ça, c'est pas disponible. Il y a comme pour moi, il y a cette notion-là que tout le monde a, un peu comme on parlait plus tôt, là, a le droit au choix, a la liberté de choix par rapport à sa famille. Donc, moi, j'étais vraiment dans ce sens-là quand j'ai approché là, ces différentes familles-là. Puis, je pense qu'eux, il y a comme un besoin d'être reconnus dans leurs modèles familiaux. Aussi, dans l'idée peut-être d'aider leurs enfants ensuite de sentir bien là-dedans. Donc, c'est ça. Mais de toutes les familles à qui j'ai parlé qui ont des modèles peut-être plus différents, il n'a jamais été question nécessairement de changer les modèles plus classiques. C'est plus d'avoir une ouverture à ce que leur modèle aussi soit accepté puis que ça soit fluide au niveau de la bureaucratie pour leur parcours, dans le fond.
C'est quoi les bâtons dans les roues que ces familles-là ont? C'est les différents obstacles de leur projet?
Ben, dans les trois projets que je présente, il y a des obstacles différents. Rapidement, il y a Nancy, elle, qui a un projet de solo parentalité.
Ouais.
Au Québec, le programme, il s'arrête à 41 ans. Donc, passé 41 ans, on n'est plus admissible au programme de remboursement. Donc, toute démarche médicale qui est reliée au projet doit être payée de la poche de la personne. Donc, ça peut être vraiment un fardeau important. Dans le cas du couple homosexuel avec une femme porteuse, au moment du tournage du documentaire, les femmes porteuses n'étaient pas reconnues au Québec. Maintenant, la loi a un petit peu changé de ce côté-là, mais il faut quand même attendre au 8e jour de la naissance de l'enfant pour que le deuxième père puisse être reconnu comme père de l'enfant. Il doit comme adopter l'enfant. Donc, ça peut causer problème d'un
Le
point de vue.
deuxième père étant pas le père biologique, mais le père qui va être dans la vie de l'enfant, là, tout le long.
Exactement,
OK.
exactement. Ça peut
Celui qui va
causer.
être significatif, finalement.
Exactement, parce que souvent, la femme porteuse va être là pour donner naissance à l'enfant, mais n'aura pas de rôle dans la vie de l'enfant nécessairement. Même pour ces femmes-là, ça va être important pour elles de se détacher, parce qu'elles ne veulent pas avoir les responsabilités légales d'être la mère de l'enfant. Ils sont vraiment là plus. Il y en a beaucoup qui vont parler d'être comme le four, si on veut, mais elles ne veulent pas nécessairement être reconnues comme liées à cet enfant-là. Et puis, ces projets-là, avec un tiers géniteur, vont être extrêmement coûteux. On parle de 50 000 à 100 000 $ pour un projet comme ça. Puis, ce n'est pas nécessairement tous les couples homosexuels qui sont capables de se permettre ça. Pourtant, les procédures sont très similaires à celles qu'on va offrir à des couples qui ont hétéronormatifs, qui vont avoir des problèmes peut-être de fertilité. Donc, il y a comme un petit peu une dissonance ici. Puis, Eliane, là, comme on a déjà parlé qu'elle est sans enfant par choix, qui aimerait avoir une ligature des trompes, mais qui ne trouve pas de médecin ou de gynécologue qui va accepter de lui faire. Pour les raisons un petit peu qui ont été évoquées plus tôt, là, qui est que ben, on a peur du regret. On a peur que cette femme-là change de choix. Puis c'est pas réversible, cette opération-là. Fait que dans chaque parcours, il y a des obstacles au niveau des lois, au niveau de notre système de santé, qui font que c'est plus difficile pour ces gens-là d'atteindre leur projet de famille, de réaliser leur rêve, dans le fond.
Est-ce que ces gens-là se posent des questions avant d'embarquer dans leur projet, soit de solo parentalité ou encore de deux papas ou deux mamans ou trois papas, trois mamans, on sait, on vient, on sait. Est-ce qu'ils se posent des questions sur le développement de leur enfant? T'sais, moi, dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir des modèles masculins. T'sais, mon père existait, je l'ai connu peut-être un peu plus tard, mais il existait. Mais avant ça, j'avais des modèles masculins qui étaient autour de moi. Est-ce que ces gens-là se posent ces questions-là sur le développement de leur enfant? Parce que, tu sais, décider d'avoir un enfant, là, c'est une décision un peu ingrate, là. C'est que moi, je décide
Veux
que je
un
vais
enfant.
être un bon père et que je veux un enfant. Donc, je trouve une conjointe, on décide ensemble qu'on fait un enfant. Puis là, on va être les deux meilleurs parents du monde. Mais il va avoir un modèle masculin, puis il va avoir un modèle féminin. Puis on a l'impression que, on va être les meilleurs modèles pour nos enfants,
Puis
quoique.
dans la conception de la société, Yannick, là, ça reste qu'en ce moment, dans le modèle, puis dans tout ce qui est autour de nous, c'est inhérent au développement de l'enfant, le modèle masculin et féminin. Puis les psychologues en parlent, mais c'est quand même tabou parce que ça se peut que deux hommes fassent un sapristi de meilleur travail qu'un père puis une mère qui n'étaient pas
Qui
prêts
ne
à avoir
s'aiment
des enfants ou
pas
qui ne
ou
s'aiment pas. Ou que...
qui sont dans dans toxicomanie ou encore dans l'alcoolisme. Puis t'as absolument raison. T'sais. Moi, tout ce qui s'apprend à cet enfant-là au départ, c'est de l'amour.
C'est ça.
Après ça, il faut greffer des modèles. Ces familles-là qui sont un peu atypiques, est-ce qu'ils se posent ces questions-là ou eux autres, ils se disent non, non, on défie la science, là, deux papas, deux mamans, c'est tout?
Ben oui, ils vont se poser ces questions-là. Je pense comme peut-être plusieurs parents qui veulent avoir des enfants, qu'on soit un couple plus classique ou pas, je pense que c'est quand même des questions qui se posent. Puis même au-delà de ça, tous ces projets-là, solo-parentalité, couple homosexuel avec tiers géniteurs, ils sont obligés de passer par un processus avec un psychologue avant de pouvoir entamer leur démarche. Donc, ils ont une évaluation psychologique avant même de pouvoir faire les démarches plus médicales.
Ça les dérange-tu ou ils comprennent le processus ou ils trouvent ça un petit peu chahutant?
Pour certains, ça va être un petit peu intrusif comme processus parce que c'est confrontant de se dire, nous, on doit être évalués si on va être des bons, potentiellement des bons parents, tandis qu'il y a énormément de parents, on s'entend, qui ont des enfants qui sont peut-être pas nécessairement considérés comme des bons parents. Même il y en a qui me disaient, hey, peut-être que ce test-là, il faudrait que tout le monde le passe en fait avant d'avoir des enfants. Parce que dans cette évaluation-là, psychologique, le professionnel va poser toutes sortes de questions pour justement confronter les parents à qu'est-ce que ça va être la réalité d'être parent. Comment est-ce que vous allez répondre aux questions de l'enfant quand il va demander pourquoi moi j'ai deux papas? Est-ce que j'ai une maman? Donc, c'est vraiment de se préparer à ça. Puis, ça pourrait être utile à n'importe quel parent, en fait, de se poser ces questions-là avant l'arrivée de l'enfant. Donc, mais oui, c'est sûr que c'est des questions qui se posent. Par contre, je pense qu'on est de mieux en mieux outillés pour répondre à ces questions-là. Il y a même beaucoup de livres qui existent maintenant pour les enfants pour avoir peut-être une version plus imagée de pourquoi sa famille est peut-être différente de celle des autres. Ça, je pense que c'est super intéressant. Puis, comme vous disiez, tu sais, je pense que c'est pas parce que c'est un couple de deux hommes qui vont être nécessairement des moins bons parents qu'un couple d'une femme et d'un homme. Ça va plus au niveau de l'éducation, au niveau de l'amour qui va être donné à cet enfant-là. Puis ça, je pense que ça peut être universel.
C'est Anne Roux, t'es réalisatrice du documentaire Choix de famille. Tu as parlé tout à l'heure de solo-parentalité puis de couple homosexuel qui intègre des tiers géniteurs. Bon, tu as parlé du coût, justement, pour ces tiers géniteurs-là, là. Est-ce que vous parlez dans le documentaire, parce que c'est des questions d'auditeurs, est-ce que vous parlez dans le documentaire des gens qui seraient portés à aller peut-être plus vers l'illégalité pour avoir un enfant? On a vu quelques reportages télé où il y a des gars qui offrent ce service-là, là. Donc, ils te mettent ça dans une genre de shopping. Puis là, toi, tu prends une seringue puis tu t'envoies ça là où ça
Hey, j'ai
doit
vu ça
aller.
sur Marketplace, là. Je sais pas si c'est une
Sur
farce, mais j'en ai
Marketplace.
vu dans les dernières années, là.
Ah, je pensais pas me faire pogner, mais...
Yannick!
Mais est-ce que vous parlez des... Parce que 50 000, c'est cher en sacrifice, là. Je serais porté peut-être à y aller peut-être plus dans l'illégalité de mon côté, là. On prône pas ça. Bien
Mais c'est que tu
entendu.
peux pas payer, mais tu peux rémunérer certains frais et autres, là,
Bien, pour ce qui est
ça
des mères
change, ouais,
porteuses,
c'est
c'est ça.
ça.
Mais pour ce qui est d'un
Donc de
gars
sperme,
qui
mettons.
donnerait son sperme, c'est de l'illégalité. Puis en plus, il y a des risques à ça, là. Tu connais pas le pedigree de ce gars-là. Tu sais pas s'il
Je
y a
ferais
des
jamais ça.
maladies.
Je ferais jamais, jamais. Je sais pas, à un moment donné, si tu as donc bien envie d'avoir un enfant, c'est tellement fort. Je dis ça, puis ma conscience me stopperait quand même. Je pourrais pas faire ça, mais il y en a clairement qui sont capables, puis je veux pas être dans le jugement, mais j'ai la même inquiétude que toi là-dedans. Comment tu le vois, toi,
Océane.
Océane?
Oui, ben dans le fond, au Québec, c'est illégal de vendre donc soit ses ovules ou son sperme. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est fait sur la base de dons seulement. Il y a tout le temps, il y a façon de le faire de façon encadrée, c'est-à-dire on appelle ça un don artisanal. Puis à ce moment-là, le sperme, ça va prendre 6 mois pour l'analyser, s'assurer que tout va bien, que les spermatozoïdes sont en santé, puis qu'on peut procéder à l'insémination. Par contre, oui, il y a des cas de gens qui vont, on dit peut-être rencontrer quelqu'un, ou des fois même ça peut être quelqu'un qui n'est pas particulièrement important dans leur vie, puis qui vont, comment dire, ils vont coucher ensemble, puis ils vont avoir un enfant par la suite, mais ils ne seront pas nécessairement reliés. Ça se fait. Par contre, c'est plus risqué au niveau légal parce qu'il n'y a rien qui protège le donneur. Il va être reconnu comme parent légal de l'enfant parce que c'est son bagage génétique. Mais oui, il y a. C'est ça, il y a possibilité de le faire de façon artisanale, mais c'est conseillé de passer par des banques de donneurs où là, tout va être régulé. Vous allez avoir toute l'information sur les donneurs. Puis au niveau de l'ovule ou du sperme, il va aussi avoir eu des tests pour s'assurer que tout est en ordre. Donc, c'est dispendieux, mais c'est la façon la plus sécuritaire là, de procéder.
Océane, on va continuer l'entrevue juste avant. Pascal, tu as dit que tu as trouvé ça, tu sais, donneur de sperme sur Marketplace. Oui. On peut-tu savoir qu'est-ce que tu as écrit dans onglet de recherche?
C'est une excellente... Je comprends la question.
C'est ton algorithme qui est tombé là-dessus.
Cette personne qui pose la question est magnifiquement intelligente. Là. Je pense que c'était... Ouais. Non, c'est un algorithme.
Merci,
là.
Merci. Ouais. C'est ton algorithme.
C'est toi, ça, qui...
Oui, c'est ça.
Mais tu sais, moi, sur Marketplace, je m'en vais dans tous les bas-fonds là, pour la job.
Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ce qu'on te demande, d'ailleurs. Hey, Océane Roux, tu es réalisatrice du documentaire Choix de famille. Vous parlez beaucoup de l'individualisme dans votre documentaire et de la liberté. Pourquoi vous avez tenu à parler de ça?
Je pense que c'est quand même actuel, là, l'idée d'avoir le droit au choix. Donc, je trouvais ça important d'en parler aussi au sens... Parce qu'il y a quand même des limites qui vont s'imposer où on se dit, on veut que tout le monde ait la liberté de choix, mais à un moment donné, où est-ce qu'on pose certaines limites? Donc, ça, je trouvais ça intéressant aussi là, d'aborder ça avec les gens du documentaire, c'est-à-dire jusqu'où on est prêt à aller en tant que société pour accompagner ces projets-là. C'est un choix qu'on fait en tant que société. Je pense qu'au Québec, on est assez ouvert sur les services publics.
Ouais.
Mais reste que chaque chose a un coût, puis ça va impacter tout le monde. Donc,
mais c'est un avantage ou un désavantage? Je m'excuse de te couper, mais c'est justement intéressant, t'sais, de mener et de lier l'argent à tout ça. Est-ce un avantage ou un désavantage?
Je pense que c'est un désavantage parce que ça met une charge assez impressionnante sur les gens qui portent ces projets-là.
C'est pas de l'argent qui va être investi ensuite dans le développement de l'enfant, puis dans acheter des choses pour cet enfant-là aussi, puis mener un bon nid. Je suis perplexe, moi, par rapport à ça.
Oui, mais c'est sûr qu'il faut prévoir de l'argent et pour le projet, mais aussi pour la suite des choses, ça, c'est sûr et certain. Puis tous ces gens-là sont mis en garde par rapport à ça. Dans le cas des Cléments, par exemple, un des Cléments a eu deux emplois en même temps jusqu'à la naissance de l'enfant. Ils ont réhypothéqué leur maison. C'est beaucoup de sous. Ça amène une pression quand même énorme sur les familles. Mais souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis c'est un désir tellement profond. C'est un rêve de vie de créer leur famille qu'ils sont prêts à faire les sacrifices pour. Mais c'est sûr que tout l'aspect financier, monétaire, on aimerait ça pouvoir le séparer là, d'un projet de famille comme
ben
ça
oui.
qui se veut dans des valeurs un peu plus libres, un peu plus dans la famille. Mais dans des cas comme ça, c'est pas possible parce qu'ils ont besoin d'assistance médicale pour y arriver. Puis ça coûte beaucoup de sous.
Océane Roux, ça a été un plaisir de te jaser. Tu es réalisatrice du documentaire Choix de famille. Ça va être présenté samedi 2 novembre à 22h30 sur Ici Télé. Moi, à cette heure-là, je suis couché. Mais je vais te suivre sur Ici Tout TV pour être sûr et certain de ne pas rater ce documentaire-là qui m'intéresse grandement. Un gros merci d'avoir participé à l'émission.
Bien, merci à vous, merci pour cette belle discussion.
Bye bye. Puis félicitations pour ce sujet qui est très audacieux. Là.
Merci beaucoup.
Merci, bye bye. Océane Roux, hey, c'est intéressant ça.
Vraiment intéressant. On se dirige vers ça, veut pas, on est déjà dedans, mais c'est juste qu'on n'en parle pas énormément. Mais les tabous là, autour de tout ça, Yannick, il y en a tellement. Puis à la base, il y en a sur si tu veux des enfants ou pas. Il
ouais.
y en a encore. Tu sais, mettons, je te dis ça.
Serais-tu prête, tu veux un enfant, serais-tu prête à payer 50 000 piastres?
Si je le veux vraiment, je pense que oui.
Okay.
Si j'ai pas trouvé de partenaire, tu sais, je me suis posé la question. Si je trouve personne qui pour moi vaut la peine d'être, moi je suis hétérosexuelle.
Tu veux que je te fasse une liste?
Qui vaut la peine d'être le père de mon enfant?
Oui.
Ben, je vais le faire tout ça. Ça, j'ai réfléchi à ça, puis je pense que je suis capable de dire que plus de 50%, je le fais tout seul.
Ouais.
S'il y a un moment dans ma vie où je suis certaine là, que je passe à cette étape-là,
ouais.
Je pense que je serais capable.
Mais tu irais pas par un don là, de donneur?
Ben, pas un donneur que j'ai trouvé dans un bar, Yannick, là.
Bon, les gars, vous êtes foutus. Mais... Mais moi, ce serait ça, probablement. Si, admettons, j'étais une femme, 30 ans, puis je rencontre pas personne, ça va pas, je pense que je serais
ça
plus
va. Voyons,
porté,
ça va pas,
Non, mais je pense que je serais plus porté vers l'illégalité que de payer 50 000 piastres.
Tu te ferais...
Je veux dire... Ben non, mais j'irais avec quelqu'un que je connais.
Ah.
Ah!
Tu sais, ça peut-tu être... Ça peut-tu être un ami? Ça peut-tu être une connaissance? Quelqu'un que je respecte beaucoup? Quelqu'un que je peux avoir une idée de son bagage génétique? Puis là, j'y en parle. Moi, ça m'est... là, je vais te faire rire. Ça m'est déjà arrivé de me faire approcher.
Pardon?
J'avais 25 ans. Pardon? J'avais une fille qui travaillait avec moi qui était en couple depuis 2 ans. Puis elle était plus vieille que moi. Elle était autour de 33-34 ans. Puis il cherchait quelqu'un pour justement mettre ça dans une shopping.
Parce que ça fonctionnait pas entre eux. Là, qu'il y avait
c'était deux filles. C'est assez dur, ça a l'air. Là, je sais pas comment ça
c'est
fonctionne.
C'est plus compliqué.
Le ciseau, là, puis tout. C'est comme...
Reviens à l'essentiel. c'était plus compliqué.
Il parlait de ça tout haut dans un party.
Il y en a beaucoup qui le font.
Puis il voulait savoir ce que j'en pensais. Puis là, ben moi, j'ai dit, ben crime, je trouve ça super cool pour vous autres. Puis je vous souhaite de trouver la meilleure des personnes possible.
Pourquoi c'était non, toi?
Puis je suis parti plus tard. Je suis parti sans réfléchir à ça. Puis 3 semaines plus tard, à job, elle me l'a demandé.
Pourquoi pour toi, c'était pas possible?
Veux-tu vraiment savoir la vérité?
Oui.
OK, je vais te la dire
quand
plus
même pas
tard.
Un mensonge.
Mais sache que...
Tu vas me la dire plus tard.
Sache que comme je suis un peu plus sensible envers les enfants qui sont issus de familles un peu fuckées, là, monoparentales...